Alors, Benoît, je savais pas que nous étions dans la période du Salon de l'Auto de Toronto.
Oui, deuxième salon après
celui
de Montréal.
Tout de suite après Montréal.
En fait, quelques semaines après. Toronto a, je dirais, un peu plus de monde, un peu plus d'influence et un peu plus de glamour, si je peux prendre le mot anglais, à son salon. C'est, ça a commencé vendredi pour le public. Ça se poursuit jusqu'à dimanche prochain, donc dans la semaine qui vient, si vous allez faire un tour à Toronto. Et on a un petit peu plus de, je dirais, de modèles rares, de modèles épatants. Par exemple, si vous avez un petit 16 millions dans vos poches à dépenser, il y a la Bugatti qu'on appelle la voiture noire, voiture qui avait été achetée originalement par Cristiano Ronaldo,
qui avait les moyens
d'en acheter une coupe. voiture qui, en fait, c'est une Bugatti Chiron de base, le modèle le plus dispendieux de la compagnie en ce moment, mais on a fait ce modèle-là en rappelant le plus célèbre modèle de la famille Bugatti, la Atlantique, qui datait de 1937. Et cette voiture-là est en fibre de carbone. Tout est unique. On en a fait un exemplaire.
Combien,
en fait,
Benoît?
16 millions de dollars canadiens.
Mais parlez-moi du moteur, ça n'a pas de bon sens.
C'est un moteur 16 cylindres. En fait, c'est deux V8 collés, un W16, 4 turbos, 1500 chevaux.
16 cylindres.
Oui, 1500 chevaux, 1600 livres pieds de coupe. D'ailleurs, l'entretien, évidemment, vous n'allez pas dans votre atelier mécanique préféré.
Non, non.
L'entretien, c'est dans l'avion. Ça s'en va directement chez Bugatti, peu importe où vous êtes dans le monde, là. On ne fait pas, il y a aucun concessionnaire qui fait l'entretien de ça, ça se fait chez Bugatti. Et un entretien régulier, là. C'est-à-dire qu'au bout de 5 à 6000 km, vos pneus doivent être changés. C'est des pneus Michelin qui ont été faits spécifiquement pour ce modèle-là. Et faire le tour de l'entretien général, c'est 70 000 $.
Ah, tu pensais faire le tour?
Voilà. Un changement du
monde. On a Guy Laliberté qui en a deux, d'ailleurs. Guy Laliberté a deux Veyrons. Donc, ça, c'est, à mon avis, si vous allez là, c'est le modèle à voir. Là, c'est tout à fait unique. Et il y a la Pininfarina Battista pour rester dans le inabordable là, à 2,6 millions. C'est presque abordable comparé aux 16 millions de Bugatti. C'est un véhicule 100% électrique. Pininfarina, qui est un très célèbre, une maison de design italienne qui a fait des Lamborghini, Ferrari. Andrea Pininfarina a été l'un des derniers en liste. Et c'est un moteur Rimac, qui est une compagnie qui fait des véhicules électriques, qui a fourni, si on veut, le côté électrique au véhicule. Ça aussi, là, on a l'équivalent d'à peu près 1900 chevaux en électrique. On fait un 0-100 autour de 2,5.
Le garagiste qui travaille là-dessus, il y a des gants blancs.
Il n'y a pas de garagiste qui travaille là-dessus non plus. Alors, il y a quelques modèles intéressants, mais si on revient un petit peu sur Terre, il y a des modèles, on constate que l'électrique prend de plus en plus de place. Là, dans les modèles courants qu'on présente...
Comme la Hyundai hybride.
La Hyundai, effectivement. La Hyundai qu'on appelle le Vision... le Vision T, qui est un modèle hybride. Ça, c'est la prochaine génération de Tucson. C'est ce que Don Romano, le président de Hyundai, m'a dit. Il dit, enlève les roues là, un peu surdimensionnées, puis il refait un peu le devant. On est pas mal à la prochaine génération. Mais on va... Hyundai, comme plusieurs autres, vont électrifier à peu près tous les modèles qui vont arriver sur le marché d'ici 2023. Donc, il va peut-être avoir une version à essence de base, mais il va avoir une hybride branchable ou il va avoir un électrique dans la même famille de véhicules. Parce que là, il faut comprendre qu'on devra rencontrer d'ici 2023 et 2025, qui sont les prochaines grandes étapes, des réglementations de plus en plus sévères au niveau des émissions de CO2, des émissions de NOx et de la moyenne de consommation, ce qu'on appelle aux États-Unis le CAFE, le Corporate Average Fuel Economy. Donc, on devra tourner autour de 4,5 litres de moyenne pour la flotte de véhicules sur la route. Alors, évidemment, c'est pour ça que GM et Ford ont, entre autres, annoncé des pick-up électriques parce qu'on ne sera pas capable d'arriver à ces chiffres-là. Puis on le sait, les camionnettes, c'est le pain et le beurre des constructeurs américains.
Ben oui. Alors, ils s'en vendent deux fois plus qu'ils se vendent voitures.
Deux puis trois, là. Ouais. Donc, il faut continuer de vendre ça parce que les profits rentrent. Donc, il va falloir électrifier ces véhicules-là pour baisser la moyenne générale, pour encore être capable d'en vendre des modèles à essence. Et tous les constructeurs embarquent dans la parade. c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de modèles qui s'en vont électriques. Je parlais aux gens de Porsche qui me disaient, là, on a le Taycan en ce moment, on va arriver avec le Macan l'an prochain, qui va être 100% électrique, et la Boxster,
qui va
être le prochain modèle en liste. Je parlais au président de Porsche Canada, c'est le prochain. Il y a déjà des essais qui se font là-dessus. Et... Donc, il n'y a plus de vache sacrée, là. Tout le monde devrait y arriver.
Et tu parlais en début du règlement Volkswagen qui propose un règlement avec ses clients allemands suite au scandale du diesel. Mais eux aussi embarquent avec Audi, avec la Q4 e-tron. Donc,
exact.
Tout le monde s'en va électrique, finalement.
Ben, en fait, c'est que là, on a du côté de Volkswagen. Puis ce qu'il faut comprendre du côté de Volkswagen, c'est qu'on avait eu un énorme support du gouvernement allemand pour développer le diesel. On avait subventionné le carburant diesel en Europe, qui était moins cher, à peu près du tiers, comparé à du carburant de l'essence ordinaire. Donc, ça favorisait l'achat. Et ça a bien fonctionné, parce qu'en Europe, dépendamment du pays où vous étiez, le parc automobile était composé de 70 à 90% en Autriche de véhicules diesel sur la route. Sauf que quand le scandale est arrivé, on n'était pas prêt du côté de l'Europe. Parce qu'on était comme au mi-cycle de tous ces investissements-là. Et là, on a été obligé, en très peu de temps, de littéralement mettre ça de côté, envoyer ça aux poubelles et recommencer à l'électrique. Là, on va investir l'équivalent de 30 milliards de dollars du côté de chez Volkswagen. Puis quand je dis Volkswagen, c'est la grande famille Volkswagen, là. Je parlais de Porsche tantôt, c'est dans la famille Volkswagen. Audi, c'est dans la famille Volkswagen.
Ouais.
Lamborghini, Seat, bon, il y a 10 compagnies qui gravitent, même Bugatti, c'est Volkswagen, là.
Est-ce que ça n'arrive pas, là, au bon moment? Si Volkswagen est toujours à la recherche d'une conclusion de ce qui a marqué son histoire, le fameux Dieselgate. C'est épouvantable ce qui est arrivé à cette entreprise-là. Ils ont couru après, tu vas me dire.
Mais oui, malgré tout ça, Paul, les ventes ont presque pas baissé.
C'est ça qui est incroyable.
Et les gens se disaient, et c'est de voir un peu comment la mentalité n'est pas encore très pro-environnementale. Les gens polluaient beaucoup plus, là, pas un peu plus, c'est jusqu'à 400 fois plus dans certains cas. Et malgré tout, ils disaient, l'auto va bien, là, moi, je vais la garder. On les a fait modifier.
Ouais.
Et les ventes de Volkswagen n'ont pas baissé. Donc,
et non seulement ça, si Volkswagen avait persisté et signé, comme on dit, il aurait pu nous envahir avec encore des modèles diesel. Et je suis sûr que ça serait bien vendu.
Si on n'avait pas découvert ça, probablement. Ouais. Parce que, et pas que Volkswagen, là, si on regarde juste dans les années autour de 2015... On regarde les constructeurs comme Mercedes, qui avait beaucoup de modèles diesel.
Avec son fameux moteur BlueTEC.
Son BlueTEC, dans certains modèles, c'était 80% des ventes au Canada. On vendait pas
ça
du reste.
Ça se vendait.
Parce qu'on avait réussi à faire un moteur performant à partir du diesel.
Et regarde la popularité encore aujourd'hui de sa fourgonnette Sprinter.
Oui, oui, absolument.
Sur le moteur BlueTEC.
Exact. Et il existe encore certains moteurs du diesel, sauf que là, évidemment, on a resserré les normes et on doit mettre beaucoup d'urée pour réussir à contenir les particules.
Oui, l'urée formaldéhyde.
Oui, l'urée formaldéhyde qu'on doit mettre en quantité pour réussir à respecter les normes. Il va encore avoir du diesel. C'est pas mort. La preuve, c'est que je conduis un GMC Sierra cette semaine.
C'est ça que j'allais dire.
Avec un moteur 3 litres.
Il y a beaucoup de camions. Hein.
Qui va au demeurant extrêmement bien. Ces moteurs-là rencontrent les normes maintenant. Mais l'avenir, on l'a vu. Et je pense que le Dieselgate a accéléré tout ce qui s'appelle véhicule électrique.
Alors, merci beaucoup, mon
plaisir,
cher Benoît.
Plaisir.
C'est toujours un plaisir. Puis, comme tu m'as rappelé quelque chose, je ne savais pas que le Salon de Toronto était là à cette période de l'année.
Et le prochain, c'est New York, en avril.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Ça va être on va sûrement s'en reparler, je devrais être là-bas.
Alors, au retour de la pause, nous nous lançons à la recherche du premier ministre, M. Justin Trudeau. Et il y a beaucoup de Canadiens qui disent, qui pensent que M. Trudeau devrait être ici au pays. Là. Ça va mal partout, là,
dans
ici.
L'Afrique.
Non, mais regardez, là, dans l'ordre.
Ouais.
Le coronavirus, la coordination du rapatriement des Canadiens qui sont peut-être infectés ou non.
Les voies ferrées.
La crise ferroviaire, la crise amérindienne, le Canadien qui ne fait pas les séries. Il faudrait que le premier ministre soit de retour et on ne sait même pas où est-ce qu'il est. On s'en va à sa recherche.